Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Commençons ce matin par les votes concernant les différentes ententes de principe. D'abord, l'Alliance des professeurs de Montréal a voté, ça a été serré, là, à 52 % l'acceptation de l'entente de principe. À Laval, le syndicat de l'enseignement a rejeté l'entente de principe. À certains endroits, ils ont accepté les salaires, refusé ce qu'on appelle, par exemple, le normatif là, des clauses concernant la répartition des classes et tout ce qui entoure là, la gestion pour les professeurs d'une classe avec les élèves en difficulté. D'ailleurs, je dois dire que ça a été long pour ce qui est de l'Assemblée des profs de l'Alliance. Ça a duré pas loin de 9 heures. Ça a fini durant la nuit à 1h45. Bon, je comprends qu'il faut prendre le temps de regarder les détails avant de voter, de faire un débat, puis ça se fait pas en 25 minutes. Mais il y a d'autres membres qui sont un peu contrariés. Quelqu'un qui me disait, entre autres, que ça a l'air que ça a pris 1h30. Peut-être pas ça exactement, mais que ça a pris bien du temps pour adopter l'ordre du jour. Il y a des membres qui ont l'impression que l'objectif, c'était d'étirer, on a déjà vu ça dans des assemblées, là, étirer la sauce. Et il y a des gens qui décrochent, qui prennent pas le temps de voter. Et les plus durs et durs, là, purs et durs, c'est-à-dire restent pour le vote final. Quoi qu'il en soit, l'Alliance des profs à 52 %, ça c'est réglé. Pour les enseignants en Estrie, ça a été accepté de justesse. Ce que ça montre, probablement qu'on se dirige, c'est pas encore sûr, là, on va savoir formellement en février, mais vers une acceptation très serrée de l'entente de principe. Et ça montre que les profs achètent pas. Je le vois dans les commentaires, puis je le vois dans les réactions officielles. Tout le volet qui concerne les élèves en difficulté, le pourcentage par classe, on n'est pas dans l'argent. On est vraiment dans comment, au terme de cette entente de principe, je vais être capable d'avoir un environnement de travail plus simple et je dirais surtout moins stressant. Il y a des mesures, l'aide à la classe, etc., qui ont été annoncées, puis, mais on le sait tous, là. Il manque de profs, puis il va toujours en manquer pour la prochaine rentrée scolaire. Et des enfants en difficulté, malheureusement, il y en a, il y en a, il y en a. Puis les fameux plans d'intervention. Alors, on peut comprendre la réticence à bien des endroits de vouloir accepter l'entente de principe. Pour ce qui est du secteur de la santé, on apprend que la Fédération de la santé du Québec, qui est affiliée à la centrale des syndicats du Québec, a rejeté l'entente sectorielle en santé. Pourtant, le Front commun, le vote a l'air à bien se passer en général, c'est-à-dire vers l'acceptation. Ça accroche à plusieurs endroits, notamment la bonification du temps supplémentaire à taux double qui ne s'applique pas à tout le monde, de la disparité entre des gens qui travaillent à temps partiel puis d'autres à temps plein. Il y a des accrochages et ils ont donc rejeté ce volet. Et ça arrive aussi au moment où vous avez un PDG sortant qui est en charge du Centre intégré de santé des services sociaux de l'Outaouais, qui s'appelle Yves Saint-Onge, qui dit que le réseau, là il parle de son coin, là, n'a pas toujours les moyens de ses ambitions et que la pénurie de main-d'œuvre est pire que pire. Alors, il a donné une entrevue au droit et il s'en va. Fait que c'est sûr qu'il est comme dédouané là, pour jaser. Mais il dit, on n'est pas compétitif puis on n'est pas capable d'attirer les gens et de garder les gens. Je pourrais vous parler de d'autres endroits dans le réseau où il y a un roulement. Des gens qui sont en burn-out, épuisement, là, d'autres qui quittent, d'autres qui laissent des endroits, des postes stratégiques pour aller occuper des postes peut-être où la pression est moins forte. Alors, le salaire, c'est bien, mais t'as beau payer des gens 100 000, 125 000, 130 000, si le cadre de travail ne change pas, ça va être extrêmement difficile. Et on va y revenir plus en détail pendant l'émission. Je vais vous parler maintenant de ce réseau de voleurs d'auto qui a été coincé en Italie. C'est une histoire assez classique, c'est-à-dire que vous avez des vols, on le sait, là, les gens à Boucherville puis dans d'autres villes, on se fait voler notre véhicule alors qu'il est garé dans l'entrée. Et on a saisi donc en Italie, en Calabre, pour 22 millions d'euros de véhicules dans des conteneurs. Donc, dans un port. Et c'est une opération menée en collaboration avec la GRC, la police italienne, l'ambassade canadienne en Italie. Ça a commencé au mois de septembre. Et donc, ce sont des véhicules qui sont en provenance du Canada, Vancouver, Toronto et évidemment Montréal. La police... Il y a une police financière en Italie, a bloqué et inspecté 400 conteneurs et ils ont identifié les véhicules. Des véhicules, donc, qui avaient été volés. La plupart, donc, des véhicules presque neufs, de marques connues. Et donc, tout ça, ça a été volé au Canada. Puis rappelons-nous, là, des véhicules volés à Toronto qu'on envoyait dans le port de Montréal. C'était plus facile, semble-t-il, pour les voleurs à gérer. Alors, donc, il y a également toute l'information relative aux véhicules qui ont été saisis. Puis déjà, c'était trafiqué. Alors, c'était des véhicules qui, en principe, devaient se retrouver en Libye, au Maroc, en Turquie et aux Émirats arabes unis. On va y revenir ce matin avec celui qui est en charge, justement, du secteur des vols d'auto pour ce qui est de la ville de Montréal. Et puis un mot, j'attire votre attention ce matin sur l'article dans la presse concernant l'incendie mortel dans le Vieux-Montréal. C'est toute une histoire parce que, et c'est spécial, rarement on voit ça. La police a un suspect. On a son nom. C'est habituellement, là, tant qu'il n'est pas accusé, on ne va pas donner le nom d'une personne. Alors, le suspect en question est un psychopathe récidiviste. Et la police l'a interrogé. Il s'appelle Denis Bégin. Il est surnommé le tueur de l'Halloween parce qu'il a tué une femme une soirée d'Halloween. Et on le voit sur place grâce aux caméras de surveillance. Et c'est un fou, là. C'est un fou qui est en cavale. Il se fait passer pour un itinérant, donne donc une fausse identité. Finalement, on fait le lien. Et ils sont convaincus que c'est lui qui a mis le feu. Puis il était là au nom d'une compagnie d'entretien, il est en donc liberté illégale. Et quand il se fait pincer, ce qu'il dit aux enquêteurs, c'est pas moi, mais j'ai pris en photo la personne qui a mis le feu. Puis si vous voulez que je vous donne la photo, ben on va faire un deal. Ça a l'air, quand vous regardez le dossier qui est rapporté par Vincent Larouche et Daniel Renault, c'est un spécialiste de la négociation avec les policiers. Sur telle accusation, je vais vous donner des détails. Dans l'affaire du Vieux-Montréal, il confirme qu'il était là, puis il dit une photo. Puis là, la police dit, on fait pas de deal avec toi, là. Fait que là, il est en dedans. C'est un gars extrêmement dangereux. Et alors, de deux choses l'une. Ou c'est vrai qu'il y a une photo, puis c'est vrai que c'est pas lui qui a mis le feu. Ou encore, il a inventé une histoire pour essayer de s'en sauver. Mais déjà, avec la feuille de route, c'est un gars violent. Avec le personnel de la prison, il a commis une série de crimes agressifs, mais ça n'a quasiment pas de bon sens quand vous lisez ça. Alors, on va y revenir ce matin, mais l'enquête pointe dans cette direction. J'ajouterais que de savoir qui a mis le feu et qui est le responsable de la mort de toutes ces personnes, c'est une chose, mais la question demeure, puis il y a une enquête du coroner, quelles étaient les conditions dans cet immeuble en termes de sécurité, de sortie d'urgence, de gicleur. On veut savoir ce qui s'est passé. C'est une chose, quelqu'un qui met le feu, mais c'est une deuxième chose de savoir cet immeuble était dans quel état au moment de l'incendie. Pierre Poilievre a attaqué hier la mairesse Valérie Plante et le maire de Québec, Bruno Marchand. Il les a traités d'incompétents dans le domaine de l'habitation. Et ça part d'une analyse de la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui démontre que les mises en chantier, ça n'a jamais été aussi pire à Montréal. On est au ralenti. Et lui, ce qu'il dit, dans le fond, je passe par-dessus la tête des provinces, si je deviens premier ministre, puis je mets des critères pour que ça construise et que les petits maires incompétents se tassent et que on réponde à la crise du logement. Là, évidemment, vous comprendrez, Mme Plante, M. Marchand ont réagi en disant qu'ils ne connaissent pas les règles, ça passe par Québec, etc., etc., etc. Mais ils soulèvent un point, c'est-à-dire les nombreux obstacles dans une ville pour obtenir des permis, des lenteurs administratives. Puis là, quand tu es rendu à vouloir créer, là, puis c'est fait, supposément à la ville de Montréal, une forme de liaison, un comité pour faciliter la construction, c'est que tu reconnais que ta machine bureaucratique lourde empêche le développement. Luc Poirier, qui est avec nous, le promoteur, là, celui qui a vendu le terrain à Northvolt, veut pas travailler à Montréal. Il dit que c'est trop compliqué. On peut lui reprocher bien des affaires si on veut, là, mais c'est un gars qui est dans l'immobilier puis le terrain, puis il dit ça n'a pas de bon sens à Montréal. J'aime mieux travailler du côté de la Rive-Sud. Mais c'est une réalité. Puis l'autre réalité, c'est qu'il y a 100 000 personnes de plus qui débarquent à Montréal, puis on construit moins. Et vous avez M. Trudeau qui veut ouvrir les portes encore plus à l'immigration. Ce qui m'amène à vous parler encore de cette lettre du premier ministre Legault à Justin Trudeau, qui dit les demandeurs d'asile, c'est pas normal qu'on en reçoive à peu près la moitié au Québec. Et ce matin, vous avez des chiffres qui démontrent que ces demandeurs d'asile, c'est Radio-Canada, sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'aide sociale au Québec, ce qu'on appelle l'aide financière de dernier recours. Si on prend, par exemple, la dernière période qui a été recensée, c'est une augmentation de 30 %. Pas strictement des demandeurs d'asile, mais c'est beaucoup, beaucoup à cause des demandeurs d'asile. Alors, vous comprenez qu'on est en train de mettre la table tout doucement, à partir de chiffres réels, sur un débat qui risque d'être assez sensible sur les questions d'immigration. On va vivre ici ce qu'on vit ailleurs, où ça polarise. T'es sur le BS, tu prends mon logement. Puis vous avez l'autre école, entre autres le conseil du patronat, qui dit non, ça c'est parfait, on a besoin d'immigration, puis il faut combler les postes parce que les entreprises manquent de personnel. La crise de la main-d'œuvre est encore réelle. Je vous le dis, dans certains pays, là, ça polarise. Je prends le cas de la France, c'est connu, mais la Grande-Bretagne, je disais hier, est en train de voter l'expulsion de Rwandais. Et là, ça bloque à l'aéroport, et même si le chemin Roxham est fermé, ça n'a pas ralenti l'arrivée de gens. Et la poussée migratoire est forte, là. Regardez ce qui se passe dans le sud des États-Unis, frontière avec le Mexique, dans d'autres pays où des gens quittent massivement pour plusieurs raisons. Dossier de la vente d'électricité. Radio-Canada nous dit ce matin que Québec va légaliser la vente d'électricité entre compagnies privées. Qu'est-ce que ça veut dire? Hydro-Québec est le fournisseur quasi unique. Là. Il y a quelques autres producteurs, là, mais le marché de la vente d'électricité, de la distribution, ça appartient à Hydro-Québec. Je vous disais hier, on a appris que la pression est très forte cet hiver, surtout en période de temps froid puis en période de pointe. Il n'y a pas d'enjeu d'alimentation ou de distribution là, pour le marché, mais tu es obligé d'aller en chercher un petit peu ailleurs. Et pour la première fois, Hydro-Québec est identifié par une agence nord-américaine comme étant un endroit potentiellement vulnérable en période de forte demande. Donc, pour alimenter tous ces grands projets de batteries, on pourrait permettre à des producteurs privés de s'installer pas loin et de produire l'électricité pour ces grands consommateurs d'électricité. Et là, ça veut dire que c'est le monopole d'Hydro-Québec qui, pour la première fois depuis la création d'Hydro-Québec, serait brisé puis qu'on permettrait à une entreprise privée de vendre à une autre entreprise privée. Et là, c'est tout le débat sur la place du privé. Puis là, vous avez des syndicats, un syndicat, celui des employés d'Hydro-Québec, qui réagit en disant « on est en train de privatiser Hydro-Québec d'une certaine façon ». Je vous disais ce matin que c'est plein de gens qui mettent la main dans les coffres de leur employeur et qui se graissent grâce à des comptes de dépenses. Hampstead, là, tu sais, le DG, c'est 2 000 par mois pour lui louer une voiture. Là. Il s'en va, là. Les voyages à Disney, les comptes à la société sur les cartes de crédit, il achète du vin, bref, des milliers de dollars de dépenses Puis le maire n'a pas l'air à trouver ça plus énervant qu'il faut, même s'il y a eu un blâme qui a été adressé à l'endroit du DG. Là, on apprend ce matin que après l'affaire de l'office d'habitation, là, où le monsieur Grenier, l'espèce de cadre, est toujours actif parce que le nouveau qui vient d'arriver l'a pas mis dehors encore. Alors, c'est un haut fonctionnaire qui a été recruté par la Ville de Montréal en 2022 pour prendre la présidence de la Commission des services électriques de Montréal. Monsieur Zerbeau, Zitki Zerbeau, qui vient de démissionner, nous dit le Journal de Montréal, parce qu'il aurait encore là profité de son compte de dépenses. Il y a une allocation d'auto, puis en même temps, il facture de l'essence. Puis quand tu regardes les détails des factures d'essence, la station-service est à côté de chez eux. Fait que ça paraît mal. Alors lui, il doit sentir la pression, fait qu'il s'en va. Puis c'est quelqu'un, nous dit le journal, qui avait de gros problèmes financiers, criblé de dettes, et que malgré son salaire quand même, qui était élevé, là, il a tout simplement décidé de lever les feutres et de disparaître. Donc, le journal qui nous raconte ça ce matin. Des fonctionnaires fédéraux pour le développement de l'application Arrive Cannes. Ça a coûté 54 millions et tout le monde se demande pourquoi ça a explosé. C'est comme s'il y avait plusieurs étapes. Et le Globe and Mail rapporte ça encore ce matin. Et là, tu découvres que des fonctionnaires suspendus, des fonctionnaires qui avaient des liens avec des entreprises, il y avait même des Zooms. Puis des sorties au restaurant plus tard, mais des zooms pendant la pandémie où une compagnie allait distribuer du whisky aux participants, l'entrepreneur, les fonds, et tout ce monde-là se mettait autour de la table puis se mettait en contact par un zoom. Et là, on est en train de demander des comptes, comme on demande des comptes à Justin Trudeau sur ses vacances sur le bras d'un ami. Tu sais, c'est le premier ministre du Canada, je peux pas croire qu'il peut pas se payer des vacances. Je comprends que la partie sécurité et tout ça, c'est pas assumé par lui, mais il est toujours en vacances chez quelqu'un. Ça demeure le premier ministre du Canada. Vous avez l'histoire également de Robert Mailer, celui qui est accusé, enfin, soupçonné d'avoir agressé sexuellement des jeunes filles mineures en échange de cadeaux et de sommes d'argent. Il y a un recours collectif qui a été intenté et l'avocat veut lui parler au plus sacrant parce que le gars est en train de mourir. Et là, ça a l'air qu'il peut encore répondre à certaines questions, mais que, disons que le décompte est parti. Alors, est-ce qu'il va mourir avant même que le procès puisse vraiment s'enclencher? On est dans les requêtes, là. Son avocat qui mène le dossier, en fait, l'avocat qui mène le dossier, c'est Jeff Orenstein. C'est un gars qui est impliqué dans un paquet de recours collectifs, notamment dans le cas de la tragédie de Lac Mégantic. Ça fait le tour de nos manchettes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, ça fait jaser depuis hier le chef conservateur sur les réseaux sociaux, Pierre Poilievre, qui a qualifié la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Québec, Bruno Marchand, d'incompétents dans le dossier de l'habitation, en disant qu'ils bloquaient des chantiers, qu'ils étaient responsables par leur négligence de la crise que nous vivons actuellement. Et pour donner plus de poids à son affirmation, il a cité Francis Cortelido, qui est économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logements, en disant « Au Québec, jamais il ne s'est construit si peu de maisons depuis 1955, soit l'année où les données ont commencé à être collectées. » Monsieur Cortelino est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Je veux pas vous plonger dans un débat politique, là. C'est pas votre travail puis c'est pas votre métier, mais est-ce que la citation, c'est vraiment ça? C'est ce que vous avez dit?
Oui, en fait, lorsqu'on regarde la construction de maisons seulement, et non la construction d'appartements, qui est vraiment ce qui domine depuis plusieurs années la construction résidentielle au Québec, et c'est vrai, si on regarde la maison individuelle détachée, la maison familiale, ça n'a jamais été aussi bas depuis le milieu des années 50. Il faut savoir, par contre, que c'est un produit qui est en déclin depuis une bonne vingtaine d'années. la construction de maisons. Il y a de moins en moins de terrains. Les terrains sont chers, donc ça serait très coûteux de construire juste une maison sur un terrain. Il y a aussi la question démographique, la taille des ménages rapetisse, de plus en plus de ménages qui vivent seuls, donc moins de familles, donc moins besoin de maisons. Puis aussi plusieurs règles qui veulent densifier le territoire pour éviter l'étalement urbain. Donc je dirais, il y a plusieurs prises qui s'accumulent contre les maisons depuis une vingtaine d'années. En 2023, donc c'était trois prises retirées, là, c'était le creux historique pour ce type de logement.
OK, ça c'est, vous le dites, là, pour les maisons, mais par exemple pour des logements, pour des condos, quelle est la tendance actuelle sur le marché?
Mais pour les appartements, c'est aussi quand même une année un peu plus difficile pour le Québec. Il y a eu un ralentissement aussi de ce côté-là. Par contre, il faut retourner à 2016 seulement là, pour voir pour en termes de creux, là, en termes de recul. C'est un peu plus récent. En termes de condos, je dirais depuis 7-8 ans, c'est relativement calme au Québec, dans la région de Montréal. Il y a eu un gros ralentissement depuis 7-8 ans. Et les promoteurs vraiment se sont tournés vers le logement locatif. Et c'est vraiment ça qui a propulsé la construction au cours des dernières années. Ça a encore été le moteur de la construction en 2023 au Québec, mais ça aussi, ça peut échapper au ralentissement. Et donc, on a eu moins de logements locatifs là, qui ont été mis en chantier l'an passé dans la province.
OK, mais quand on regarde le portrait global, on manque d'unités de logement au Québec. Peu importe la forme, là, il manque d'endroits pour accueillir des gens puis leur donner un lieu pour vivre.
Oui, en effet. Donc, on avait publié une étude il y a quelques mois où, grosso modo, on disait pour être capable d'absorber la croissance démographique des prochaines années, et aussi acheter plus de logements pour avoir un marché plus abordable, comme on l'avait peut-être une vingtaine d'années, quand les ménages mettaient peut-être un peu plus de revenus adéquats au coût du logement, il faudrait pratiquement tripler le nombre de mises en chantier. Un défi immense. Là, c'est sûr que lorsque les mises en chantier baissent, comme c'est le cas en 2023, on s'en va dans la mauvaise direction. Donc, on va pouvoir trouver des solutions pour accélérer la cadence, la production de logements, parce que, comme vous le disiez, il y a un manque de logements présentement sur le marché.
OK. Là, vous me parlez du portrait pour Montréal, le Grand Montréal. En même temps, ça donne une idée de ce qui se passe au Québec. Il y a quand même des endroits au Québec où ça construit plus.
Oui, mais je dirais que c'est assez généralisé cette année. Je crois à l'exception de Trois-Rivières, ouais. Saguenay. Qu'il y a eu une légère hausse. Il y a eu des gros projets qui ont gonflé les chiffres de 2023. Mais un peu partout au Québec, là, vous allez regarder à Gatineau, à Québec, à Sherbrooke, que vous regardez aussi dans les régions rurales, les petites agglomérations là, de 10 000 à 50 000 habitants, c'est pas mal en baisse partout, je vous dirais, en 2023. C'était le contexte économique est très difficile en ce moment. On a l'incertitude économique. Les acheteurs sont pas au rendez-vous. Et aussi avec la hausse des taux d'intérêt, les conditions de financement pour partir des projets pour les promoteurs sont très difficiles. La plupart d'entre eux nous disent que les projets sont pas viables avec les coûts de financement actuels. Donc, on les retarde, on les annule. Et ça explique la baisse qu'on a vue l'an passé.
OK. Est-ce que ce que vous décrivez pour le Québec, ça se voit ailleurs au Canada? Est-ce que c'est la même chose à Toronto, pour l'Ontario, pour la Colombie-Britannique? Est-ce qu'on a la même situation?
Mais c'est ça qui est un peu, disons, différent cette année, c'est que le Québec fait un peu bande à part dans la baisse de la construction résidentielle. Si on enlève le Québec du Canada, le Canada a eu une baisse de seulement 2% des mises en chantier, alors qu'au Québec, on a connu une baisse de 32%. L'Ontario a eu une très forte année, c'est pas un record, très forte année. Colombie-Britannique, c'est une année record. L'Alberta aussi, l'économie est un peu plus vigoureuse de ce côté-là, donc très forte année aussi. Donc le Québec, disons, était un peu sur les lignes de côté cette année en termes de construction.
OK, mais en gros, ce que vous me dites, c'est on construit ailleurs et pas ici, là.
Oui, mais il faut savoir aussi qu'au Québec, on construit différemment. Si on prend l'exemple de Toronto-Vancouver versus Montréal. Toronto-Vancouver, on fait des grandes tours, 20-25 étages, 200-250 unités. Des projets souvent qui s'échelonnent sur un bon 4-5 ans. Donc, par exemple, une tour qui commence à être construite à Toronto cette année de condo, peut-être que les préventes ont lieu il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand l'économie allait mieux. Donc, les projets qui ont démarré cette année à Toronto-Vancouver, c'est peut-être un peu les conditions du passé. Et là, vous sautez à Montréal avec des petits tours, des tours de taille moyenne qui prennent peut-être 1, 2, 3 ans à faire. Et dans ce cas-là, on vit présentement les conditions actuelles. Les préventes en termes de condos sont très difficiles. Les projets locatifs font face à des conditions de financement très difficiles aussi. Donc, il n'y a pas de projet qui lève. Et donc, je dirais que nos conditions actuelles se reflètent dans nos mises en chantier au Québec, alors qu'ailleurs, on est plus encore dans les conditions du passé. Mais même en fin d'année, Ontario, on voyait que ça commençait un peu à s'essouffler. Donc, les conditions actuelles commençaient aussi à les rattraper.
Mais on est face à un mur. Vous l'avez dit tantôt, il fallait multiplier par 3 les mises en chantier alors qu'on recule. Ça veut dire que c'est pas une crise passagère, là. C'est avec d'autres facteurs, là, les taux d'intérêt, donc une pression sur les... par exemple, pour l'accès à la propriété pour la première fois, ce sont des années qui vont être difficiles à rattraper.
Oui, mais en ce moment, comme vous dites, les taux d'intérêt, c'est un facteur plus conjoncturel. Donc, c'est passager, l'inflation va être maîtrisée éventuellement, les taux d'intérêt devraient commencer à baisser. Mais ça fait quand même une vingtaine d'années que l'abordabilité se détériore un peu partout au Canada. Et donc, il y a des phénomènes plus lourds derrière ça. Par exemple, on a parlé tantôt, la productivité n'est peut-être pas assez forte dans l'industrie de la construction. Il n'y a pas assez peut-être d'automatisation ou le prix usiné est peut-être pas assez fort. Je vois présentement que le gouvernement du Québec essaie d'attirer de plus en plus de gens dans l'industrie de la construction parce que il faut avoir besoin de bras pour construire tous ces logements-là et tous ces projets-là. Donc, on essaie d'attirer les gens, d'avoir plus de productivité. Et une des villes aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience dans plusieurs villes maintenant, dans leur plan d'action, qu'on dit on doit favoriser la construction résidentielle, on doit accélérer la livraison des permis. Donc, je crois qu'il y a une prise de conscience en ce moment que des problèmes qui sont là depuis plusieurs années et il va falloir commencer à trouver des solutions pour éventuellement accélérer la cadence de construction de logements au Québec.
OK. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur la prochaine question, mais il faut que je vous la pose. Il y a un débat sur l'immigration. Par exemple, je prends juste le cas de Montréal, 100 000 personnes se sont ajoutées, principalement des gens qui ont immigré. Puis d'un autre côté, on a une crise du logement. Est-ce que et j'entends le conseil du patronat qui dit non, il faut continuer dans l'immigration parce qu'on a besoin de bras puis les gens doivent travailler, par exemple, dans le secteur de la construction. Est-ce que l'immigration, ça contribue à augmenter la crise ou ça peut contribuer à, je dirais, affaiblir la crise?
Bien, c'est une très bonne question. Je crois que c'est un enjeu complexe. C'est sûr que lorsque plusieurs personnes arrivent au pays, ces gens-là, on le voit dans les années, hop, pour le marché locatif à leur arrivée. Donc, ça va mettre beaucoup de pression sur les marchés locatifs. Et plus la croissance démographique est élevée, mais plus la demande de logements va être élevée en bout de ligne, donc plus vous avez besoin de construire de nouveaux logements. Mais d'un autre côté, comme vous le disiez, il y a aussi des enjeux économiques. Il y a des entreprises un peu partout au Québec qui ont besoin de main-d'œuvre face au vieillissement de la population, pénurie de main-d'œuvre, donc besoin de travailleurs. Et juste peut-être une petite donnée ici, là, l'an passé au Québec, supposons que le Québec avait fermé ses frontières, mais la population aurait décliné au Québec. On parle pas ici d'un ralentissement de la croissance de la population, mais la population aurait commencé à baisser au Québec si on avait accepté aucune personne de l'étranger. Donc, il y a tout cet enjeu-là d'enjeu économique versus enjeu du logement et à savoir le nombre parfait de personnes qu'on devrait accueillir. Donc, je pense que c'est un débat qui est ouvert en ce moment. C'est une question très complexe de pouvoir y réfléchir parce que c'est des enjeux économiques, mais aussi des enjeux en termes de logement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très apprécié.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir. Francis Cortolino est économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logements.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On va d'abord parler des négociations dans le secteur public et surtout donc des votes pris par les syndicats. L'exemple le plus clair ce matin, les profs de Montréal ont accepté à 52 % l'entente de principe, donc c'est un vote serré. Et ceux de Laval, qui sont membres de la FAE, ont rejeté l'entente de principe également, mais cette fois dans une proportion plus élevée, on parle de 68 %. Donc on sent que les profs sont divisés. Et ce qu'on comprend quand on regarde les différents commentaires, au terme d'assemblées qui sont longues, là, dans le cas des profs de l'Alliance, ça s'est terminé durant la nuit, puis ils veulent pas commenter. Mais l'argent, ça va. Mais pour ce qui est de l'organisation de la classe, il y a vraiment des déceptions. Et beaucoup de profs m'ont écrit qui ont voté à contre-cœur en faveur de l'entente, mais qui disent « Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans ma classe l'an prochain? » Puis c'est toujours l'enjeu des élèves qui ont des difficultés, l'absence de soutien. Puis même malgré des engagements, par exemple, pour l'aide à la classe et autres mesures, ben on pense que ça sera pas suffisant. Il paraît que, pour ce qui est du Front commun, ça se déroule, quand même vers de l'acceptation. Ça, en tout cas, ça semble bien se dérouler. Il y a cependant la Fédération de la santé du Québec qui est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec qui a rejeté l'entente sectorielle en santé à 98 %. La présidente est avec nous, Isabelle Dumaine. Madame Dumaine, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, quand on parle d'entente sectorielle, qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
On parle là, des conditions de travail là, reliées aux infirmières, infirmières auxiliaires et aux inhalothérapeutes que nous représentons.
OK, donc on parle pas des salaires.
Non, on ne parle pas des salaires. C'est niveau intersectoriel.
OK. Qu'est-ce qui fait que c'est un non aussi massif, selon vous?
Bien, écoutez, notre entente a été présentée, là, telle que le prévoit nos statuts, à notre Conseil fédéral de négociation. Selon les commentaires que nous avons reçus, là, il y a vraiment au niveau du temps supplémentaire où là, c'est un enjeu pour notre délégation et c'est vraiment là, ce qui nous a été vraiment précisé là, comme l'importance. Il y a des disparités aussi, hein, vous savez, là, depuis quelques négociations entre les temps partiels et les temps complets. Et là, cette disparité-là, cet écart de traitement-là se creusait. Donc, nos membres là, ont préféré rejeter notre délégation au Conseil fédéral a préféré rejeter l'entente, donc ne pas aller la présenter en Assemblée générale à tous les membres de la FSQ-CSQ.
Mais vous l'aviez accepté, l'entente?
Nous, oui, notre équipe de négo avait accepté l'entente. On avait jugé là, que c'était assez intéressant là, pour la présenter là, à notre instance de négo, le Conseil fédéral. On avait réussi là, à faire reculer l'employeur sur des sujets. On avait réussi à bonifier. Là. Tantôt, je vous ai dit que le temps supplémentaire était un enjeu. On avait quand même réussi à bonifier la proposition initiale de la partie patronale. On avait aussi là, fait des gains dans d'autres secteurs. Mais que voulez-vous? Notre délégation a jugé que c'était pas suffisant. Donc, ils ont rejeté cette entente-là.
Est-ce que ça veut dire que vous l'avez pas vu venir, ce refus aussi massif?
Ben, non, honnêtement, on l'a pas vu venir. On le savait là, que notre entente était pas parfaite. Hein. Vous savez, il y a tellement de problèmes dans le réseau de la santé, il faudrait tellement investir. On manque de personnel, on a de la difficulté à recruter, nos gens continuent de partir là, prématurément. Fait que les enjeux sont immenses là. Et donc, on était conscient que c'était pas parfait, on était conscient que c'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Hein. Quand on commence une négociation, là, on est toujours plein d'espoir que cette fois-ci, ce sera la bonne, que le gouvernement a finalement compris, là, surtout suite à la pandémie, à tout ce qu'on avait vécu. On se disait ben c'est sûr là, qu'il va faire ce qu'il faut, qu'il va prendre les mesures nécessaires pour pouvoir là, améliorer les conditions de travail de nos membres.
C'est quoi la prochaine étape pour vous?
Ben, la prochaine étape, là, évidemment, on va faire la demande de conciliation. On a vu là, que ça l'a permis de débloquer, là, entre autres au niveau intersectoriel, là, une fois que le négociateur là, est entré en jeu, les discussions là, ont progressé. On a vu aussi qu'à dans d'autres fédérations, ça a fonctionné. Donc, nous, c'est demande de conciliation et on va retourner à la table de négo. Nos membres nous ont dit là, ce qui leur déplaisait dans cette entente-là. Donc, avec l'aide d'une tierce personne, là, on espère pouvoir là, faire progresser les négociations.
On sait qu'il n'y a pas d'entente avec la FIC encore. Ce que vous comprenez, là, si vous me résumez le tableau ce matin, là, tout ce qui touche la santé, ça risque de se terminer par un retour à la table.
Ben, tout ce qui touche la santé, vous savez qu'il y a d'autres fédérations en santé. Donc, eux sont présentement là auprès de leurs membres en consultation. Je ne sais pas s'il y a déjà là, des ententes, là, soit au niveau de la CSN, de la PTS, là, qui ont des refus ou des gains. Je ne suis pas au courant. Okay. Mais effectivement, là, nous et la FIC, là, on considère qu'on est encore en négociation.
Est-ce que ça pourrait aller à d'autres moyens de pression, par exemple, dans les prochaines semaines?
Ben, écoutez, on espère que non. Hein? On espère, comme je vous dis, qu'avec la présence d'un conciliateur, les négociations vont progresser. Mais rendu là, je sais pas, ça va dépendre de la volonté des deux parties d'en arriver à une entente, mais c'est pas exclu que des moyens de pression doivent être entrepris.
OK, dernière question. Est-ce que vous changez votre équipe de négo ou ce sont les mêmes qui retournent?
Non, ce sont les mêmes qui retournent. Écoutez, notre instance, elle a été vraiment formelle avec nous. Ils nous ont dit, on sait que vous avez travaillé fort, on sait que le travail que vous avez fait, c'est pas facile, on ne voudrait pas être à votre place. Le message, là, il est vraiment dirigé vers le gouvernement. Nos membres, c'est au gouvernement qui envoie un message très clair. On a besoin d'améliorer nos conditions de travail si on veut continuer d'offrir des soins de qualité à la population. C'est ça le message de nos membres, et il s'adresse au gouvernement.
OK, l'enjeu, c'est pas le salaire. Je comprends que ce sont les clauses de temps supplémentaire, puis bon, des trucs comme ça, mais c'est pas la rémunération comme telle.
Ben, écoutez, la rémunération, là, les syndicats vont faire la tournée, vont présenter l'entente intersectorielle à nos membres, parce que l'entente sectorielle, elle tient toujours. Là, elle a été adoptée en CSQ, elle est présentée en CSQ. Pour l'instant, là, on parle vraiment des conditions sectorielles, des conditions de travail. Okay. Des membres qu'on représente.
Parfait, Mme Dumaine. Merci.
Bonjour, merci.
Au revoir, bonne journée. Bonne Isabelle journée. Dumaine est la présidente de la Fédération de la santé du Québec et qui a rejeté donc cette partie de l'entente. Voilà pour les votes dans le secteur public. Maintenant, vol de voiture. On en parle beaucoup et on apprenait hier qu'en Italie, en Calabre, on a saisi des conteneurs. La GRC est impliquée, la police italienne évidemment, donc des conteneurs qui contenaient des véhicules, puis des véhicules volés au Canada et bien sûr dans la région de Montréal. Le commandant Yannick Desmarais est avec nous, section des enquêtes criminelles Nord et responsable des vols de véhicules. Monsieur Desmarais, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y avait dans les conteneurs en Italie?
Il faudrait poser la question à GRC en lien avec cette enquête.
Ils vous l'ont pas dit?
Ils ne l'ont pas dit encore. J'ai pris connaissance hier. Belle opération.
C'est pas étonnant, par exemple, que les conteneurs proviennent du Canada puis qu'on retrouve des véhicules là, de Montréal, Toronto, Vancouver?
Pas du tout. On est des bons fournisseurs, je pense, au Canada en matière de vol de véhicules.
Pourquoi vous me dites qu'on est des bons fournisseurs?
Quand on regarde la situation, je ne fais pas de cachette, M. Arcand, c'est un fléau national. C'est pas juste Montréal qui est impacté, c'est l'ensemble du Canada. Les différentes études, les différentes enquêtes qui démontrent que, à partir du Canada, il y a énormément de véhicules qui sortent de nos frontières.
Plus de Montréal qu'ailleurs?
Montréal, naturellement, est bien positionné géographiquement avec son port. Là. C'est sûr que ça a un impact, clairement, sur l'exportation.
Des véhicules volés à Toronto qui débarquent à Montréal?
Notamment. Oui. Beaucoup de véhicules de l'Ontario qui sont dirigés chez nous pour être exportés ensuite.
Mais au-delà là, de la position géographique de Montréal, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui font que Montréal est pratiquement la capitale du vol de voitures?
C'est multifactoriel, hein, M. Arcand. Il y a plusieurs choses qu'il faut regarder là-dedans. Premièrement, les manufacturiers ont des choses à faire pour mettre sur les véhicules. Faut les sécuriser, nos véhicules. Puis je vais en profiter ce matin pour dire que toute occasion de voler un véhicule est là, là. C'est un crime d'occasion pour nos criminels. Puis, faut sécuriser nos véhicules, naturellement, avec un bon système de surveillance sur le véhicule. Puis, je vous le dis, M. Arcand, dans les enquêtes qu'on fait actuellement, j'en vois pas de véhicules qui ont des systèmes de surveillance qu'on récupère, notamment au port, dans des containers.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, là? Les véhicules que vous trouvez dans le port de Montréal, ils n'ont pas de système de protection, de sécurité, de surveillance?
Habituellement, non. Dans 95 % du temps, il n'y en a pas. Donc, c'est important de retenir ce matin, si on ne met aucun système de rétention ou de surveillance sur notre véhicule, ben, il est à risque, notre véhicule.
Ça, je comprends. Puis je sais que la technologie fait que c'est assez simple. Là. Ça prend pas, disons, une maîtrise en informatique pour démarrer un véhicule là, qui est stationné à Boucherville ou à Montréal dans une cour ou sur la rue. Là. C'est assez facile. Mais vous, la police, là, les auditeurs vont dire, vous faites quoi là, devant ça là?
En fait, on fait plusieurs choses. Hein. On n'a pas les bras croisés, là, assurément. On travaille. Il n'y a pas une journée, M. Arcand, où je ne parle pas avec mes partenaires de l'Ontario, de la police provinciale de l'Ontario. On a des stratégies d'enquête qui sont mises en place. Puis je veux saluer le travail des policiers sur le terrain, que ce soit du SPVM, de tous les corps de police du Québec. Vous savez, M. Arcand, à toutes les nuits, là, les policiers doivent travailler avec des jeunes qui volent des véhicules puis prendre une décision de quelle façon qu'ils vont intercepter ces véhicules-là.
Je comprends pas ce que vous voulez dire.
Vous comprenez pas?
Non.
Dans le fond, ce que je veux vous dire ce matin, là, c'est qu'un jeune qui est au volant d'un véhicule volé, il faut l'arrêter. Il y a une façon qu'on doit le faire, puis nous, on a un devoir de protection des citoyens. Fait que c'est pas évident pour les policiers sur le terrain de procéder à l'arrestation de ces jeunes-là. Donc, il y a des décisions importantes.
Sincèrement, je comprends pas ce que vous voulez me dire. Là,
je vais vous le mettre plus clairement.
Ouais.
On a un jeune de 16 ou 17 ans au volant d'un véhicule volé au centre-ville de Montréal, par exemple.
OK.
Le policier tente d'intercepter.
Vous savez par la plaque que c'est un véhicule volé?
Par la plaque ou par enquête.
OK.
Il y a deux choses qui risquent d'arriver. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que soit que le véhicule va se ranger en bordure, va avoir une arrestation puis va s'en suivre, ou le jeune va décider de quitter, puis ça va engendrer une poursuite policière. C'est à ce moment-là que nos policiers doivent prendre une sage décision à savoir de quelle façon qu'ils interviennent. Puis moi, je veux saluer le travail qui est fait sur le terrain parce qu'il n'y a pas une nuit, M. Arcand, où il n'y a pas des interventions en matière de véhicules volés sur notre territoire. C'est très bien fait.
Mais le jeune de 16 ans, là, c'est un pion là, dans le système de vol de voitures qui se retrouve dans le port de Montréal puis ultimement à l'étranger.
Tout
là.
À fait. Il fait partie d'une cellule, il localise des véhicules. Vous savez, ça marche selon l'offre et la demande. Hein. Il y a de la demande pour certains types de véhicules. Il y a des cellules qui se promènent puis qui localisent des véhicules.
OK. Posez des questions très simples. Il y a combien de véhicules qui ont été volés à Montréal là, en 2023?
2023, là, M. Arcand, là, on est tout près de 12 000 véhicules. C'est à peu près une moyenne de 1 000 par mois juste sur notre territoire.
Juste sur le territoire là, du SPVM?
Exactement.
OK. Il y a combien d'arrestations faites en rapport avec les vols de véhicules?
Les arrestations, là, pour le moment, je n'ai pas les chiffres encore. Il est trop tôt. Là, c'est pas comptabilisé. Il y en a, comme je vous ai dit, à toutes les nuits, soit par les policiers patrouilleurs, ou il y en a dans le cadre d'enquêtes. Il y a des enquêtes en cours, il y a des enquêtes en cours par le SPVM, mais aussi avec ses partenaires.
Dans le port de Montréal, est-ce que vous avez trouvé des véhicules?
Oui, tout à fait. L'année passée, on a fait à peu près 55 opérations avec nos partenaires de l'Agence des services frontaliers du Canada. On a saisi tout près de 1200 véhicules juste en 2023 au niveau du port. Ça représente, si on le regarde, là, 75 000 $ environ un véhicule. C'est peut-être 90 millions de saisies en termes de véhicules volés.
OK. Je vous demanderai pas vos secrets, là, mais le véhicule volé là, qui se retrouve dans le port de Montréal, d'abord, comment il fait pour entrer dans le port puis comment on le place dans un conteneur?
Mm-hmm. Vous voulez pas me le dire? Ben, c'est une bonne question. Écoutez, je faciliterai pas le travail de nos bandits ce matin, là, mais il y a du travail qui est à faire au niveau de chacune des autorités, si je peux dire.
OK. On va poser autrement. Y a-tu de la corruption dans le port de Montréal? Y a-tu de la complicité?
Je l'ai pas là.
Des travailleurs, des... Tu sais, ça rentre pas de même, là?
Non. Écoutez, moi, à date, là, je vous dirais, depuis 2 ans et demi que je suis dans le vol de véhicules, j'ai aucune raison de croire que c'est le moyen de rentrer.
Non, mais si moi, je veux entrer dans le port de Montréal, je peux pas entrer dans le port de Montréal, là.
Mais on peut rentrer avec des gens qui ont des accès, par contre.
OK, mais ce sont des gens qui ont des accès, qui travaillent au port ou qui ont l'autorisation d'aller au port.
Pas nécessairement. Ça non, peut mais... être des transporteurs qui ont accès au port.
C'est ça, c'est pas le commun des mortels, là.
Non.
C'est... OK, donc ça veut dire qu'il y a une forme de complicité quelque part pour entrer les véhicules là.
Moi, je vous dirais peut-être la complicité, regardez, à l'extérieur du port. On a des gens là, qui transportent de la marchandise, légale ou illégale, appelons-le comme on veut ce matin. Peut-être qu'il faut regarder cet angle-là. Plutôt que celui
des transporteurs.
Du port, ben, notamment.
OK. Puis une fois là, que j'arrive dans le port, là, est-ce que je peux mettre mon véhicule dans un conteneur avec d'autres types de biens puis qui ne sera pas vérifié parce qu'il va être, il va avoir 40 conteneurs par-dessus puis on n'a pas le temps de commencer à tout voir ça?
Ça, c'est plus une question qui s'adresse à l'Agence des services frontaliers, mais je vous dirais qu'ils font un excellent travail puis ils vont cibler des conteneurs à vérifier. Donc, nous, de notre côté, on signifie des conteneurs à vérifier au niveau du service de police à nos partenaires. Il y en a qui proviennent de l'Ontario. C'est important de vous donner un chiffre là, ce matin. 70 % des 1200 véhicules l'année passée proviennent de l'Ontario. 70 %, c'est quand même beaucoup de véhicules. Puis pourquoi? Ça s'explique comment? Bien, au Québec, on a plus de véhicules avec des systèmes de repérage, alors qu'en Ontario, ils ne sont pas nécessairement tenus pour l'instant d'en mettre. Puis je vais en profiter ce matin pour vous dire, là, les gens qui ont des SUV de luxe, Cadillac Escalade, Tao, ça va selon la demande.
Mais j'ai vu selon les documents en Italie, là, c'est principalement des véhicules dispendieux de luxe.
Ces gros véhicules-là, si vous ne les protégez pas, ils vont partir rapidement.
Monsieur Desmarais, merci d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir, monsieur.
Le commandant Yannick Desmarais, qui est entre autres le responsable des vols de véhicules moteurs à la police de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien. La sénatrice Julie Méville-Deschênes pilote un projet de loi pour faire en sorte que les enfants puis les ados aient pas accès à de la pornographie en ligne. Puis Dieu sait que c'est facile d'en trouver. Elle a l'appui des partis d'opposition, même de certains députés libéraux. Mais disons que la majorité au sein des libéraux bloque ce projet de loi. Puis on se demande un peu pourquoi. Elle est avec nous ce matin. Julie Méville-Deschênes, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, parlez-nous du projet de loi. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Puis quelles sont les mesures concrètes qui peuvent en découler?
Alors, c'est très simple. C'est que depuis une quinzaine d'années, les enfants ont accès à des millions et des millions de vidéos sur les sites porno. Et il n'y a aucun contrôle à l'entrée. C'est-à-dire que des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans peuvent rentrer sur ces sites où il y a de la violence, où il y a évidemment du hardcore, où il y a des images qui sont de la performance et absolument pas des relations sexuelles. C'est pas de l'éducation sexuelle, on le sait. Mmh. Donc, mon projet de loi, ce qu'il veut faire, c'est très simple, c'est dire que il doit y avoir de la vérification d'âge pour les clients de ces plateformes. De la même façon que dans la vraie vie, Paul, il y a de la vérification d'âge quand on veut acheter un magazine porno, quand on veut aller un cinéma porno, quand on veut rentrer dans un porn shop. L'idée, c'est que la pornographie, c'est fait pour les adultes. Et on voit de plus en plus que c'est une grave crise de santé publique. Encore la semaine dernière, le premier ministre d'Espagne a dit que c'est une épidémie. Nos 80% des enfants voient de la violence pornographique. On va faire de la vérification d'âge. On va faire aussi des campagnes de prévention. Donc, il y a plusieurs pays qui vont de l'avant. Alors qu'ici, ce qui me déçoit profondément, c'est que le gouvernement a dit non. On est contre ce projet de loi et c'est pour ça, c'est ce qui explique que la majorité des libéraux ont voté.
Mais comment le gouvernement peut être contre un projet qui veut justement empêcher que des enfants aient accès à du matériel pornographique? Sur quelle base? C'est quoi l'argumentaire?
Alors écoutez, c'est une très bonne question. Et je dois dire que je ne comprends pas tout à fait les raisons qui sont invoquées à travers le bureau de la ministre Saint-Onge, c'est que ce projet de loi va nuire à la vie privée de ceux qui veulent avoir accès à ces sites, va nuire aussi à la liberté d'expression. Imaginez donc, comme si la liberté d'expression, qui est une valeur chère à mes yeux, serait menacée parce qu'on demande aux clients de Pornhub, par exemple, de vérifier leur âge. Un peu comme quand on va sur un site de jeu, un site de paris. L'idée, c'est une vérification d'âge qui serait faite dans toutes les règles de l'art, probablement par une tierce partie. Comment est-ce que la liberté d'expression peut être affectée par ça? Il faut dans cette société comprendre et savoir que protéger les enfants, c'est quand même plus important que d'attendre 30 secondes pour avoir une vérification d'âge avant d'aller sur un site porno.
Se peut-il qu'une des raisons, je spécule là, mais c'est la présence au Canada de plusieurs joueurs de l'industrie de la pornographie en ligne. Et on en abrite plusieurs, là.
Mais c'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a eu MindGeek qui a été acheté par Ethical Capital Partner. Et donc, c'est un des plus gros sites porno. Est-ce qu'il est canadien? On ne le sait pas, mais il est à Montréal. Le gros des employés sont à Montréal. Écoutez, je ne peux pas m'imaginer que pour des intérêts commerciaux, parce que ces compagnies font des millions et des millions de dollars, ça fait 15 ans là que les sites gratuits en poche, parce que il y a plein de gens qui vont consulter ça, et que ce soit des adultes, très bien, mais quand c'est des enfants, l'idée qu'on puisse dire mon Dieu la liberté d'expression, mon Dieu la sécurité des données, on a des lois pour la sécurité des données, pourquoi est-ce que on ferait pas ça pour les sites porno, alors qu'on le fait pour toutes sortes d'autres choses, pour aller à sa banque?
Je dois vous dire que je suis rendu un peu méfiant sur les intérêts cachés, parce que je lisais un bouquin sur Facebook qui nous arrive à peu près aux 6 mois avec des politiques. On va détecter les pédophiles sur le web, on va mieux contrôler la distribution des photos d'enfants, alors que dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Puis dans les faits, à l'intérieur de ces méga joueurs de l'industrie, au-delà du discours, la pratique est tout à fait le contraire.
Alors, on sait que Pornhub a été racheté par Ethical Capital Partner, qui disent qu'ils sont tout à fait d'accord avec la vérification d'âge, mais ce que je propose, c'est pas la bonne affaire. Alors évidemment, on peut toujours trouver des raisons pour ne pas agir.
Il y a le discours officiel, puis
Mais sachez que les groupes qui défendent les enfants sont d'accord avec ça, les parents en termes de sondage, partout dans le monde, sont d'accord avec ça. Il y a plusieurs pays qui s'en vont dans cette direction-là. Je ne vous dis pas que c'est facile, parce qu'ils se défendent, les sites porno. Ils poursuivent tous les pays qui essayent de légiférer. Alors, est-ce que...
Votre pays modèle, là, c'est celui qui a le plus...
Qui a le plus avancé en ce moment, ouais. C'est l'Allemagne. Mais je dirais que la Grande-Bretagne vient de passer un projet de loi assez extraordinaire qui protège pas juste les enfants contre la pornographie, parce qu'il y a toutes sortes d'autres préjudices en ligne, mais contre ce qui peut, tu sais, pour le suicide, par exemple, toutes ces questions difficiles auxquelles les enfants peuvent être confrontés sur le web. L'idée, c'est un projet de loi large pour protéger les enfants. Et le gouvernement veut faire un projet de loi sur les préjudices en ligne. Entendons-nous. Ça fait 3 ans qu'ils nous le promettent. Mais jamais ils n'ont dit que la vérification d'âge ferait partie de ce projet. Je crois qu'ils comptent, encore une fois, sur l'auto-réglementation de ces plateformes. Ben, écoutez, en tout cas pour les plateformes porno, je peux vous dire que ça marche pas. Il faut leur dire quoi faire. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas de réglementation. Ça fait 15 ans que les enfants sont soumis à ça. En termes de santé publique, là, ce que ça fait, c'est que c'est des enfants qui croient que c'est ça, la sexualité, qui n'ont pas toujours d'éducation sexuelle et qui croient que c'est ça qu'ils doivent faire.
Qui apprennent avec ces sites-là.
Qui apprennent avec ces sites. Et ensuite, vous savez ce que ça donne sur les stéréotypes sexuels, sur l'égalité dans la sexualité. C'est des images qui sont très difficiles pour des enfants. Imaginez-vous à 8 ans voir de la violence sexuelle. Vous imaginez que c'est la réalité et ça les rend plus vulnérables à des individus en ligne qui voudraient leur faire des choses qu'ils ne veulent pas faire parce que ça normalise ces pratiques.
Vous avez l'appui des partis d'opposition.
De tous les partis d'opposition.
De quinzaine de libéraux, j'ai bien compris.
Oui, aussi, qui ont décidé de ne pas voter en vertu de la ligne de parti.
Est-ce que votre projet de loi pourrait passer malgré la réticence du gouvernement?
Ben, moi, ce que je dis...
Si on fait un décompte face à un gouvernement minoritaire.
Oui,
là.
Exactement. C'est un gouvernement minoritaire. Pour l'instant, il y a une majorité qui est favorable au projet de loi. Moi, j'ai espoir que il va y avoir une étude en comité. Si le gouvernement juge qu'il y a des choses qui doivent être ajoutées au projet de loi et changées, c'est le moment précis pour le faire. Et c'est ça le processus parlementaire. Mais de dire avant même que le projet soit étudié en comité à la Chambre des communes, ça n'a pas de sens, ce projet de loi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que les enjeux sont énormes. C'est le bien-être de nos enfants qui devrait être prioritaire.
Merci beaucoup d'être venue ce matin.
Ça me fait plaisir.
Julie Méville-Dechaîne, qui est sénatrice indépendante et qui pilote ce projet de loi.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.